Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour et bienvenue chers amis à l'écoute de Radio Prague. Le chef de l'État va gracier Jiří Kajínek. Arrivé à Pékin, Miloš Zeman a rencontré le président chinois et puis la social-démocratie insiste sur la révocation d'Andrej Babiš. Jiří Kajínek, l'un des prisonniers les plus célèbres de République tchèque, va bénéficier dans la seconde partie du mois de mai de la grâce présidentielle. Le chef de l'État, Miloš Zeman, l'a annoncé jeudi soir sur la chaîne de télévision TV Barrandov. Jiří Kajínek, dont l'histoire a fait l'objet d'un film sombrement intitulé Kajínek, a été condamné à la prison à perpétuité en 1998 pour un double meurtre et une tentative de meurtre commandité commis 5 ans plus tôt. La décision de lui accorder la grâce présidentielle suscite de très nombreuses critiques dans le monde politique tchèque et l'Union des procureurs a également exprimé sa désapprobation. Le ministre de la Justice, Robert Pelikán, a cependant estimé pour sa part qu'il s'agissait d'un acte de miséricorde, ce qui serait plutôt une bonne chose. Fraîchement arrivé à Pékin pour un séjour de près d'une semaine, le chef de l'État, Miloš Zeman, a rencontré ce vendredi son homologue chinois Xi Jinping. Pour le président tchèque, la rencontre a été l'occasion d'indiquer que sa venue était liée à sa volonté de soutenir le projet de nouvelle route de la soie, qui vise notamment à intensifier les échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe. Le sens de ces entrevues est d'aider à la réalisation de ce projet. C'est pour cela que je suis venu avec 38 projets très concrets, parce que je n'aime pas les formules politique, a déclaré Miloš Zeman. Le chef de l'État est accompagné d'une délégation composée notamment de 200 chefs d'entreprise et hommes d'affaires, ainsi que des ministres de l'Industrie et du Commerce, des Transports et du Développement Régional. Le Parti social-démocrate insiste sur la révocation du ministre des Finances et vice-premier ministre Andrej Babiš, soupçonné de fraude fiscale et de manipulation des médias. Pour les sociaux-démocrates, la proposition du président de la République, Miloš Zeman, a démettre de ses fonctions non seulement le leader du mouvement ANO, mais aussi le premier ministre social-démocrate Bohuslav Sobotka, est inacceptable. Le chef du gouvernement l'a annoncé ce vendredi après une rencontre de la direction du parti. D'après le ministre de l'Intérieur, Milan Chovanec, Bohuslav Sobotka a reçu ce vendredi une lettre d'Andrej Babiš dans laquelle le mouvement ANO propose son éventuel successeur au poste du ministre des Finances. Il s'agit de la ministre adjointe des Finances. La nomination d'Alena Schillerova a toutefois été vivement critiquée par l'opposition de droite ainsi que par le ministre des Affaires étrangères, le social-démocrate Lubomír Zaurálek, selon qui elle pourrait tenter d'influencer les investigations menées contre Andrej Babiš. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées jeudi soir devant le château de Prague pour protester contre le chef de l'État Miloš Zeman et le ministre des Finances Andrej Babiš. Une action intitulée « Proč, proto, pourquoi, parce que », qui s'inscrit dans la continuité de l'importante manifestation organisée la veille sur la place Venceslas à laquelle ont participé près de 20 000 personnes et qui s'est tenue conjointement dans 6 autres villes de République tchèque. On termine comme toujours avec un mot de météo. Le temps est toujours couvert et pluvieux sur l'ensemble du territoire tchèque ce samedi, jour de la fête des Servates. Des orages peuvent parfois également apparaître. La température maximale varie entre 18 et 22 degrés. Elle ne dépasse pas les 13 degrés à compter de 1000 mètres d'altitude.
Faits et événements en République tchèque.
C'était donc les principaux événements et on passe au programme du jour. Le festival de musique Le Printemps de Prague débute ce vendredi. Quels sont les principaux invités de cette année? Nous en parlerons dans quelques instants. Nous vous proposerons également un entretien avec l'écrivaine Karin Twill qui était récemment de passage à Prague et comme d'habitude la deuxième partie sera consacrée à notre traditionnelle revue de presse. Mais avant cela, jetons un coup d'œil sur l'évolution de l'équipe tchèque au championnat du monde de hockey sur glace. C'est Alžbeta Rušková qui vous accompagnera pendant les prochaines minutes. Bonne écoute à toutes et à tous. Pour la première fois depuis la naissance de notre univers, le championnat du monde de hockey sur glace, compétition toujours très populaire en Tchéquie, où les couleurs nationales sont souvent de sortie à cette occasion, est organisé conjointement par deux pays, la France et l'Allemagne, deux pays où la culture hockey est moins développée. Cela n'a pas empêché de nombreux supporters tchèques de faire le déplacement à Paris où la représentation effectue un début de compétition en demi-teinte. Pierre Maignan.
Jeřábek a Pastrňák, Jeřábek Pastrňák a puk je vedle brány ještě Kovář a kde je puk, je to gol, Jan Kovář, Česko vítězí 1-0 v prodloužení.
La victoire a été bien longue à se dessiner jeudi pour les Tchèques qui ont dû attendre la prolongation et la 62e minute pour que Jan Kovář inscrive le but de la délivrance face à deux coriaces norvégiens. La sélection tchèque enchaîne les matchs tendus sur la glace parisienne et alors qu'elle affronte la Slovénie ce vendredi, la plus faible équipe du groupe B, elle aurait bien besoin de repos selon son entraîneur Josef Jandač.
On a besoin de se reposer. Les matchs qu'on a eus jusqu'à présent étaient vraiment compliqués et ils nous ont coûté beaucoup de force. Les Slovènes ont eu une journée de repos, donc nous devons nous préparer.
Troisième de leur poule, après quatre rencontres, les hockeyeurs tchèques, avant la Norvège, ont croisé le fer mardi contre les Finlandais, vice-champions du monde, qui leur ont donné pas mal de fil à retordre. Et pour cause, à l'issue du premier tiers-temps, la République tchèque était menée 3-0 dans un match qu'elle a finalement remporté après la toujours délicate séance des tirs de fusillade. Notre correspondante à Paris, Kateřina Salpkova, était de la partie au Palais Omnisport de Paris-Bercy. De nombreux tchèques avaient aussi fait le déplacement et c'est peut-être ça qui a décidé du sort de la rencontre. En tout cas, c'est l'avis d'Erika, une supportrice tchèque vivant en Angleterre.
C'était d'abord un peu triste parce qu'on n'y croyait plus. Et puis à partir du deuxième et dans le troisième tiers-temps, on a commencé à mettre des buts les uns après les autres. Là, on y a cru jusqu'au bout et c'est vraiment fantastique. C'était vraiment palpitant. En fait, c'est au moment précis où nous sommes allés nous installer dans le Cop tchèque que les Tchèques ont commencé à renverser la vapeur.
Édouard, un spectateur français, partage l'avis d'Erika. Le public a été décisif dans le succès tchèque.
Au début, on était côté Finlande. Et quand on a vu qu'il y avait plus d'ambiance côté Tchéquie, on allait côté Tchéquie. Et l'ambiance, elle a favorisé quand même le fait qu'ils aient perdu au pénalty. Parce qu'ils étaient tous groupés derrière les buts, ça a changé. Mais c'était un beau match, ouais.
Un beau match, comme on est peu habitué à en voir en France, pays où le hockey sur glace, fort tout de même d'environ 20 000 licenciés, est peu médiatisé. Édouard est l'un de ces licenciés.
Mais moi, je joue au hockey sur glace, donc je viens... Mais en fait, il y a plutôt que des gens qui connaissent le hockey sur glace. C'est pas très populaire en France. Il n'y a pas beaucoup de patinoires. C'est ça aussi le problème. C'est pour ça que c'est sur deux pays, c'est sur la France et l'Allemagne.
Depuis quelques années, la sélection française a gagné sa place au sein de l'élite du hockey mondial grâce à certains exploits, en particulier la victoire en 2013 contre la Russie. Forte de son éclatante victoire sur la Finlande 5-1, la France, défaite avec les honneurs jeudi par les tenants du titre et favoris canadiens 3-2, vise désormais les quarts de finale de la compétition. Cela passe par une performance dimanche face à la République tchèque qui, si elle n'a pour l'heure pas totalement convaincu, peut toujours compter sur des supporters aguerris à toutes les tribunes d'Europe.
La soprano Diana Damro, le pianiste Lukáš Vondráček, l'orchestre de Paris, l'orchestre symphonique de Toronto et le chef d'orchestre Krzysztof Penderecki figurent parmi les grands invités de la 72e édition du Festival international de musique Le Printemps de Prague, Pražské jaro. Le plus important événement musical en République tchèque s'ouvre ce vendredi par un concert très attendu de l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Daniela Barenboim, avec une interprétation, comme le veut la tradition, du morceau « Ma patrie » de Bedřich Smetana. Magdalena Hrozinková nous en dira plus.
chef d'orchestre et pianiste israélo-argentin Daniel Barenboim, 75 ans, est une des vedettes incontestées de ce printemps de Prague. Très présent sur la scène musicale internationale, cet ancien directeur musical de l'Orchestre de Paris, de l'Orchestre symphonique de Chicago et de la Scala de Milan est également une personnalité engagée. En 1999, il fonde l'Orchestre symphonique du Western Eastern Divan Orchestra qui rassemble des musiciens de différents pays du Proche-Orient, favorisant ainsi le dialogue entre juifs et arabes. En pleine crise migratoire, Daniel Barenboim donne à Berlin des concerts gratuits pour les réfugiés. La notion de patrie tient à cœur à ce grand chef d'orchestre. Nous avons besoin d'une Europe unie et patriotique, a-t-il déclaré en réaction du vote britannique sur le Brexit, en précisant que, je cite, le nationalisme est l'opposé du patriotisme. Daniel Barenboim et l'Orchestre philharmonique de Vienne ont accordé une attention particulière à l'étude du cycle de poèmes symphoniques « Ma patrie » de Patrick Smetana, comme en témoigne un documentaire tchèque dont le tournage s'achève ce vendredi avec le concert d'ouverture du printemps de Prague et dont des extraits ont été diffusés avant même que ne débute le festival.
Crescendo bis minimum mezzo forte, yeah?
Si Daniel Barenboim ne cache pas avoir un faible pour Ma patrie, c'est aussi parce que ce cycle représente un lien particulier entre le musicien israélo-argentin et son ami Rafael Kubalik. Après plus de 40 ans d'exil, ce remarquable chef d'orchestre tchèque revenait au printemps 1990 à Prague pour diriger Ma patrie devant des milliers de personnes réunies sur la place de la vieille ville de Prague, parmi lesquelles le nouveau président tchécoslovaque Václav Havel. Sous concert à marqué symboliquement la chute définitive du régime communiste.
Bravo, bravo. Vielen Dank. Dankeschön.
Le concert de l'Orchestre symphonique de Toronto, organisé en hommage à son ancien chef tchèque, Karel Ančel, figurera sans doute parmi les plus grands moments de l'édition 2017 du Printemps de Prague. Sans oublier l'Orchestre de Paris qui se produira le 31 mai prochain à la Maison municipale de Prague, un concert conçu autour de la musique de Maurice Ravel, avec comme invité principal la mezzo-soprano Kate Lindsay. Le printemps de Prague s'achèvera le 2 juin prochain en présence d'une autre légende musicale, le compositeur et chef d'orchestre polonais Krzysztof Penderecki. L'orchestre symphonique de la radio tchèque interprétera notamment sa symphonie numéro 7, Les Sept Portes de Jérusalem.
Le jazz, la musique ancienne, contemporaine et expérimentale. Tout cela est également au menu de l'éclectique 72e édition du Printemps de Prague. Toute la programmation est à consulter sur le site www.festival.cz. Dans le cadre de la 23e édition du festival Le Monde du Livre à Prague, qui s'achève ce dimanche, la romancière Karen Twill, invitée d'honneur cette année, présente son nouveau roman L'insouciance, Bestarostnost, qui paraîtra en mai dans la traduction tchèque de Tomáš Havel aux éditions Garamond. Nicolas Petras l'a rencontrée à l'Institut français où elle a présenté son œuvre et ce dernier roman qui propose les destins croisés de personnages qui souffrent de leur identité.
Alors, au départ, j'avais vraiment envie d'écrire un texte sur les effets intimes de la guerre, notamment sur la question du syndrome de stress post-traumatique, donc le retour des soldats français de mission, parce que c'était un sujet qui avait souvent été abordé aux États-Unis, notamment au cinéma, en littérature. Enfin, c'était un véritable enjeu même national, alors qu'en France, il me semblait qu'on n'en parlait pas, qu'on en parlait peu. Donc au départ, c'était vraiment raconter la guerre. Et puis, peu à peu, dans la lignée de ce que j'ai déjà écrit, de mes précédents textes, c'est devenu aussi une réflexion sur la guerre sociale, sur les tensions et les conflits qui peuvent exister dans la société française aujourd'hui. Et d'autres personnages se sont dessinés. Donc, j'avais déjà le personnage de Romain Roller, qui est ce soldat qui revient blessé d'Afghanistan. Et puis, deux autres personnages masculins se sont dessinés. Un grand patron, qui est aussi patron de presse, qui va être impliqué dans un scandale, et un conseiller politique issu de la diversité et des banlieues sensibles, qui et les destins de ces trois personnages vont se croiser. Donc en fait, peu à peu, la structure même du livre a évolué au gré aussi de l'actualité politique de la France.
Je vais un peu développer concernant votre roman, qui est souvent présenté comme évoquant certaines violences de société, certaines crispations identitaires, parce que finalement les personnages ne peuvent pas se détacher de leur identité, aussi bien sociale que culturelle, c'est aussi le problème. Et justement, il présente plutôt la fin de l'insouciance de cette société. Qu'est-ce que cela implique pour le lecteur ? Est-ce que vous présenteriez les thèmes de votre livre comme ceci exactement ?
C'est un livre sur l'épreuve, c'est un livre sur la violence. Tous les personnages, à un moment donné du livre, vont être confrontés à une épreuve particulière, à une forme de douleur morale très forte, et ils vont devoir trouver des stratégies de survie pour supporter cette violence-là. Par ailleurs, c'est vrai que c'est un livre que j'ai écrit en partie pendant l'année 2015, qui a été marqué par une vague d'attentats en France. Donc il y avait une vulnérabilité, une fragilité au cœur même du pays, qui, à mon avis, a eu des répercussions sur mon propre texte.
Est-ce que vous pensez que notre société est condamnée à vivre comme ça, c'est-à-dire est condamnée à ne pas se détacher de l'identité, qu'elle soit culturelle ou sociale, des individus?
Le problème, c'est qu'effectivement, on a assisté ces dernières années à une tendance soit à l'assignation identitaire, soit à la revendication identitaire. Et évidemment, ça pose des questions que d'ailleurs raconte le livre. Hein. On voit la difficulté pour certains issus de milieux défavorisés ou certains issus de la diversité, la difficulté pour eux de trouver leur place dans les sphères de pouvoir. Et ça, je le montre à travers l'ascension du personnage d'Ousmane Dibula, qui est fils d'immigrés ivoiriens, et qui va être confronté au sein de l'Élysée à une forme de racisme. Le livre raconte aussi cela, les tensions identitaires et sociales qui peuvent exister dans la France d'aujourd'hui, et que l'on retrouve d'ailleurs effectivement dans d'autres pays, parce que finalement l'accession de Trump au pouvoir le prouve aussi. Il n'est que l'expression quand même d'une forme de radicalité, de rejet de l'étranger, alors qu'en France, justement, la victoire d'Emmanuel Macron a prouvé l'inverse, a prouvé le désir des Français de rester dans l'ouverture, dans la démocratie et une forme de modernité.
Il y a quelque chose il y a un marqueur qu'on pourrait désigner comme dénominateur commun à pas mal de vos œuvres, c'est l'utilisation d'un style tragicomique, je dirais parfois. Il y a un livre en particulier qui le souligne parfaitement.
Interdit, le deuxième.
Ou lorsque j'étais drôle.
Quand j'étais drôle.
Quand j'étais drôle. Pourquoi les aborder, oui, vos... En tout cas, je trouve une grande partie de vos ouvrages sous cet angle. Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Je pense que l'humour, c'est une stratégie de survie comme une autre. Et le rire, ou en tout cas le mode burlesque, l'ironie, la distance ironique permettent d'affronter des questions sombres, des questions dures, sous un autre angle. C'est vrai que certains de mes livres ont une forte charge tragicomique. Par la suite, j'ai été vers des textes parfois un peu plus sombres. Là, je pense à 12 France, à 6 mois, 6 jours, à La Domination. Mais même dans mes textes les plus sombres, il y a effectivement toujours une part de comédie, une part de burlesque, parce que je crois que c'est aussi le reflet de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments de tension, des moments de légèreté, et que sans cette part qui est accordée à l'humour, cette distance ironique, le monde nous paraîtrait bien sombre.
C'est la fin de ces faits et événements. Merci de votre attention. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague. Et on passe à la deuxième partie de notre programme. Dans cette nouvelle revue de presse, nous évoquerons d'abord le regard d'un politologue sur les défis à relever par le Parti social-démocrate. Un autre politologue, dans un entretien publié dans un magazine très lu, analyse, lui, l'intégration européenne. Nous nous intéresserons également à ce qu'il en dit comme à une information relative au commerce de différents articles à l'effigie de personnages controversés de l'histoire, parmi lesquels Adolf Hitler. Enfin, les arbres fruitiers qui sont menacés par les caprices de la météo ou encore le renouvellement de la culture des asperges en Tchéquie feront l'objet également de notre attention. Cette émission a été préparée par Alena Gebertova et présentée par Magdalena Rozinkova et Denisa Tomanova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Après les différents rebondissements dont la scène politique tchèque a été le théâtre ces deux dernières semaines et dont le Parti social-démocrate a été un des principaux acteurs, la question se pose de savoir si le principal parti de la coalition gouvernementale s'apprête à retrouver un second souffle. C'est du moins la question qu'a soulevée le politologue Lukáš Jelínek dans le journal en ligne Deník Referendum.
Ce qui intéresse les électeurs, ce ne sont pas les différentes pirouettes qu'effectuent les politiques, mais les démarches concrètes. C'est pourquoi le ČSSD se doit d'achever le travail qui a été entrepris jusqu'à présent par le cabinet de Bohuslav Sobotka, tout en préparant sa campagne électorale qui devrait reposer sur des thèmes sociaux-démocrates authentiques. Les droits sociaux, le développement des services publics, la suppression des écarts entre un groupe restreint de fortunés et les groupes défavorisés. Seule une social-démocratie défendant ce type de programme sera lisible pour les gens et en mesure de renouer avec ses précédents succès.
Par ailleurs, il convient de faire comprendre à l'opinion publique que l'actuelle crise gouvernementale est un combat pour le caractère politique et démocratique du pays. Tel est toujours, selon le politologue Lukáš Jelínek, un des principaux défis que les sociodémocrates sont aujourd'hui appelés à relever. Ils n'y parviendront toutefois que s'ils forment un parti fort et stabilisé. Des t-shirts et des tasses à l'effigie de Tomáš Garrigue Masaryk, Saddam Hussein, Marilyn Monroe, Miloš Zeman ou encore Vladimir Poutine. Et tout dernièrement, ces mêmes articles portant les portraits de Staline, Hitler et Reinhard Heydrich. C'est ce que propose la maison d'édition Naše Vojsko, notre armée, dont sa librairie à Prague et sur Internet. L'hebdomadaire Respect a apporté plus d'informations à ce sujet.
Naše Vojsko publie en premier lieu des livres avec des thèmes militaires. La maison d'édition a suscité la controverse pour la première fois l'année dernière en publiant le livre Mein Kampf le jour de l'anniversaire d'Hitler. Comme l'ouvrage était accompagné, tel un avertissement à ses lecteurs, d'une préface signée d'un avocat et de l'Union tchèque des combattants pour la liberté, sa publication ne pouvait faire l'objet d'une accusation pour propagation du nazisme. À ce jour, près de 25 000 exemplaires ont été vendus. En ce qui concerne la vente de t-shirts et de tasses à l'effigie des hauts dignitaires nazis, elle a soulevé les protestations de toute une série d'associations de survivants à l'Holocauste et de combattants antifascistes.
Le propriétaire de la maison d'édition incriminé se félicite quant à lui de l'intérêt accru des clients et du succès commercial de ses activités. Plusieurs centaines de personnes ayant acheté différents de ses articles controversés en l'espace de 2 mois. Pour lui, il ne s'agit pas de néo-nazis mais de gens ordinaires qui veulent tout simplement se rappeler certains chapitres de l'histoire ou monter un canular. Évidemment, cet avis est loin d'être partagé par tout le monde. D'ailleurs, comme le remarque le magazine Respect, la police qui examine le dossier pourrait considérer la chose comme une infraction à la loi. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un empire supranational, telle est l'idée qui est défendue dans la dernière édition de l'hebdomadaire Reflex par le politologue et éditeur tchèque Alexandr Tomsky, qui a passé une importante partie de sa vie en Grande-Bretagne et qui, dès son retour au pays, s'est fait connaître comme un des adversaires déterminés de l'Union européenne. Alexandr Tomsky explique pourquoi il estime que la République tchèque pourrait bien vivre en étant isolée.
On trouve beaucoup de petits pays comme le nôtre dans le monde qui se passent d'une telle appartenance. Il n'est pas nécessaire de faire partie d'un empire, que ce soit pour des raisons économiques ou sécuritaires. Un empire porte préjudice à l'économie parce qu'il est trop grand et trop bureaucratique, mais aussi parce que tôt ou tard, il stagnera comme toute grande entreprise. Un empire ne se maintient qu'à la force de son pouvoir qui n'est pas démocratique. Il va de soi que les États nouent des alliances en matière de sécurité, mais l'Union européenne s'est formée sur un complexe hérité de la Deuxième Guerre mondiale et en se faisant une fausse idée de ce qu'est le nationalisme.
Toujours selon Alexander Tomsky, le Brexit est un tournant historique car il marque le début de l'éclatement de l'Union européenne. Et quelle idée qui devrait être soutenue par l'ensemble de l'intelligentsia raisonnable, le politologue se fait-il de l'avenir? Il affirme voir celui-ci comme un marché libre, un Conseil de l'Europe sans subvention, sans intégration, sans Parlement européen et sans 55 000 bureaucrates trop payés. Les caprices de la météo inquiètent les arboriculteurs tchèques, plus particulièrement ces derniers jours, et ce même si la production nationale de fruits ne couvre qu'une faible partie des besoins des consommateurs tchèques. L'éditorial publié dans une des dernières éditions du quotidien Mladá Fronta Dnes a rapporté.
Après un mois de mars très chaud, les températures nocturnes ont fortement baissé, devenant même souvent négatives au petit matin. Un temps pluvieux et venteux associé à des températures très basses compose un cocktail très nuisible, voire même fatal pour certains arbres fruitiers. Un nouveau retour du gel autour des seins de glace, comme cela se produit souvent, signifierait une bonne fois pour toutes que les récoltes de fruits seront très mauvaises cette année. Les abricotiers, les pêchers et dans une moindre mesure les cerisiers, les poiriers et les pruniers seront plus particulièrement touchés. Comme elle l'a déjà été à plusieurs reprises ces dernières années, c'est la région de la Moravie du Sud qui est la plus touchée par ces caprices de la météo.
L'ampleur des dommages pourrait être estimée plus précisément lors des semaines à venir. Le journal note cependant qu'en l'état actuel des choses, les pertes seront inférieures à celles enregistrées l'année dernière, quand les basses températures avaient duré plus longtemps au printemps et endommagé la quasi-totalité de la récolte prévue des fruits. Le quotidien économique Hospodářské noviny s'est penché sur la culture de l'asperge, un légume qui n'était pas très recherché jusqu'à peu encore, mais que les Tchèques ont découvert ces dernières années et qu'ils continuent d'apprendre à apprécier. Le journal rappelle que les champs d'asperges qui s'étalaient dans la région de Mělník en Bohême centrale ont été supprimés au début de l'ère communiste avant d'être renouvelés dans les années 90, essentiellement par des cultivateurs néerlandais. Depuis, les asperges sont cultivées et vendu avec succès par un producteur local, le journal précise.
C'est par hasard que l'entrepreneur Jiří Šafář est devenu le plus important producteur tchèque d'asperges. Après avoir acheté une entreprise néerlandaise au bord de la faillite en 2012, il a récolté et vendu tout ce que ses prédécesseurs avaient cultivé. Depuis, il récolte chaque année, entre fin mars et fin juin, des centaines de tonnes d'asperges, dont un tiers est destiné à l'export, surtout vers l'Allemagne voisine. À noter que les restaurants en Tchéquie et en Allemagne respectent un accord tacite qui veut qu'ils ne peuvent proposer de l'asperge à leurs clients qu'à compter de la mi-avril.
Enfin, le journal remarque que l'asperge se vend à bien meilleur marché en République tchèque qu'à l'étranger, et ce, histoire de ne pas décourager les clients pour lesquels les bas prix constituent un critère déterminant dans leur choix d'achat. Malgré ce constat, l'unique grand producteur d'asperges en République tchèque entend désormais s'orienter davantage sur la clientèle locale.
Voilà, c'est la fin de ce programme qui vous a été présenté par Alžběta Rušková. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague au www.radio.cz/fr ainsi que sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy!